これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Jean-Michel Bernou.
Et à la réalisation, aujourd'hui, Rafik Zénine. Contrairement à une idée reçue tenace, le plus éloquent des démocrates n'est pas Jean-Jacques Rousseau, d'origine modeste et de tempérament égalitaire, pour qui en définitive seul un peuple de dieux se gouvernerait démocratiquement, mais Alexis de Tocqueville, aristocrate de haute lignée et dont la famille eut à payer un lourd tribut à la terreur révolutionnaire. Tocqueville que, faute de le lire, des interprétatifs ont longtemps tenu pour un contre-révolutionnaire anti-moderne et un contempteur des droits de l'homme absurde, Tocqueville qui pourtant disait de lui-même qu'il était aristocrate de cœur mais démocrate de tête, Tocqueville donc debout entre deux mondes, était de ceux qui préfèrent qu'on obéisse aux lois avant d'obéir aux hommes et qui, à tout prendre, craignent davantage le despotisme que l'anarchie.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Dans les pays libres, où chacun est plus ou moins appelé à donner son opinion sur les affaires de l'État, dans les républiques démocratiques, où la vie publique est incessamment mêlée à la vie privée, où le souverain est abordable de toutes parts, et où il ne s'agit que d'élever la voix pour arriver jusqu'à son oreille, on rencontre beaucoup plus de gens qui cherchent à spéculer sur ses faiblesses et à vivre aux dépens de ses passions que dans les monarchies absolues. Ce n'est pas que les hommes y soient naturellement pires qu'ailleurs, mais la tentation y est plus forte et s'offre à plus de monde en même temps. Il en résulte un abaissement bien plus général dans les âmes.
Mais pourquoi voulez-vous commencer par ce texte, Madame Paola ?
Peut-être parce que comme ça, à vue d'œil, quand on feuillette les pages de Tocqueville, c'est celui qui semblerait le plus facilement contemporain.
Oui, tout à fait. Il y en a plein, en fait. Et il faut le dire d'emblée à nos auditeurs, c'est important. Lire Tocqueville, c'est tendre un miroir fidèle et par conséquent indigeste à notre propre époque. Non pas parce que Tocqueville aurait entrevu ce qui se passe 150 ans plus tard, mais parce que Tocqueville est, pour son malheur, il le vit lui-même comme une douleur, le contemporain de l'émergence et de l'avènement du fait démocratique. Et donc, comme il est le contemporain, aristocratique au fond, de l'avènement d'un régime politique dont il pressent à la fois la nécessité et le caractère de moindre mal, comme le dira Churchill plus tard, comme il est le contemporain de cela, la lecture qu'il propose des pathologies émergentes du phénomène démocratique s'applique parfaitement à l'époque qui est la nôtre. Or ici, dans les pays libres où chacun est plus ou moins appelé à donner son opinion sur les affaires de l'État. Traduction.
Micro-trottoir, peut-être.
Internet, micro-trottoir, forum de discussion. Chacun est radio qui donne la parole aux auditeurs. Votre opinion nous intéresse, soi-disant. Dans les pays libres où chacun est plus ou moins appelé à donner son opinion sur les affaires de l'État, c'est-à-dire chez nous, en démocratie, tout simplement. En démocratie, là où on considère que le peuple qui, après tout, porte les édiles au pouvoir est fondé quand même, non pas à les révoquer, mais au moins à donner leur avis sur la gouvernance.
Raphaël, ouais. si on parle de Tocqueville contemporain pour nous aujourd'hui, et qu'on a tendance à penser que ce qui nous arrive justement, cet abaissement bien plus général dans les âmes, et ce côté tout le monde peut parler, tout le monde peut donner son avis, nous semble quelque chose d'assez nouveau. On dirait que ça date 20e siècle, 21e siècle. Et si Tocqueville en parlait déjà au 19e siècle, c'est qu'il est question de quelque chose de, je sais pas, oui, de quelque chose d'assez sempiternel en fait.
Alors sempiternel, oui, mais, et je suis comme vous d'accord avec le fait que les époques n'ont rien de singulier. Mais enfin, c'est la démocratie. Il parle de la démocratie. C'est un penseur de la démocratie. C'est d'ailleurs le contempteur de l'homme démocratique. Le premier à avoir critiqué l'homme démocratique, c'était Platon, au livre 8 de la République. Il faisait de l'homme démocratique un portrait tout à fait calamiteux, en expliquant que l'homme démocratique, c'est celui qui ne tient pas en place, c'est celui qui n'a pas d'essence ou qui ne sait pas, au fond, quelle est son excellence propre. Et qui donc, par conséquent, un jour peut être ici, un jour peut être là-bas, un jour peut être financier face au neveu de Rameau, comme le lendemain, il peut être ave comme un mendiant à qui on aurait donné 5 sous. L'homme démocratique, c'est l'homme instable, c'est l'homme incertain. Donc, premier portrait de l'homme démocratique se trouve dans la République de Platon, c'est un portrait calamiteux. Le portrait que Tocqueville propose de l'homme démocratique est le portrait d'un individu dont l'individualisme prend la forme d'une conquête de l'égalité, ou dont l'égalitarisme a produit l'individualisme mortifère dont les démocraties dépérissent, ou à cause duquel les démocraties donnent parfois le sentiment de dépérir. Écoutez-le parler de l'homme démocratique. Pour lui, il jouit de ses biens comme un usufruitier, sans esprit de propriété, sans idée d'amélioration quelconque. Ce désintéressement de soi-même va si loin que si sa propre sûreté ou celle de ses enfants est enfin compromise, au lieu de s'occuper d'éloigner le danger, il croise les bras pour attendre que la nation tout entière vienne à son aide. Cet homme se soumet au bon plaisir d'un commis, mais il se plaît à braver la loi comme un ennemi vaincu dès que la force se retire. Aussi le voit-on sans cesse osciller entre la servitude et la licence. Et ce portrait, tout en nuances, de l'homme démocratique, qui est à la fois soumis à des forces plus vastes que lui, a commencé par la tyrannie de la majorité, on en parlera, et en même temps imbu de sa propre individualité, qui lui donne le sentiment faux d'être en définitive irréductible aux lois qui s'appliquent à lui, cette double appartenance, cette double détermination de l'homme démocratique, personne ne la désigne mieux que Tocqueville. Et pour en revenir au texte que vous avez lu au début de l'émission, texte sur Internet. C'est-à-dire un texte sur les méfaits d'une proximité accrue et démocratique entre les gouvernants et les gouvernés. Ce texte-là renseigne sur le fait que la proximité n'est pas une élévation. La proximité n'est pas consécutive à l'élévation de l'homme démocratique. La proximité des édiles est consécutive à l'abaissement général. C'est un effet de l'abaissement général. Alors, il ne s'agit pas pour Tocqueville de défendre une certaine forme de hauteur du politique, mais de se souvenir que l'égalité s'obtient par un nivellement par le bas. Et de fait, quand on entend les gens s'exprimer sur Internet, le droit que tout un chacun, que le premier nul venu, se donne de juger, d'évaluer des gens qui... on a envie de leur dire, écoutez, soyez gentils, taisez-vous, apprenez à écrire vos prénoms, et écoutez, et apprenez ce que d'autres, plus âgés que vous, ont à vous apprendre. La tentation démocratique est de taper sur l'épaule de ses idoles, de juger celui qu'on voudrait révérer, et de le faire au nom d'une certaine forme de liberté d'esprit. Alors qu'en réalité, c'est un mouvement collectif. Rien n'est plus banal que de cracher sur une édile à l'intérieur du système qu'on appelle Internet, précisément en vertu de cette proximité-là.
C'est le conformisme.
C'est un conformisme déguisé en anticonformisme. C'est le conformisme de l'anticonformisme. C'est-à-dire que la démocratie telle que Tocqueville l'a décrit dans la première moitié, dans les années 30, dans la première moitié du 19e siècle, la démocratie telle qu'il l'a décrit, ressemble à s'y méprendre ou donne à ses lecteurs le mode d'emploi de ces individus antipathiques entre tous, qui ont le sentiment d'être iconoclastes alors qu'ils enfoncent des portes ouvertes, qui ont le sentiment d'être originaux alors qu'en donnant leur avis sur un sujet qu'ils ignorent, ils parlent comme tout le monde parle du même sujet, et qui vivent leur propre irrévérence, leur propre audace comme une audace, alors qu'elle n'est qu'une façon pour eux de se plier aux injonctions tacites du régime démocratique dont la proximité avec les édiles implique justement un surcroît et un gain de vulgarité.
On parle du phénomène des youtubeurs comme ça qui critiquent, mais un truc pas mal dans le genre vulgaire, c'est ce jeune critique soi-disant de cinéma qui s'en prend à Godard et à Adieu au langage, qui est un film certes difficile.
Vous êtes incorrigible, en fait. On parle de, même quand on parle de politique, vous allez caser Godard.
Mais pourquoi pas? Le cinéma est politique et le cinéma de Godard est politique, donc pourquoi pas? Alors. Et écoutez ça au moins quelques secondes, parce que je ne veux pas en affliger plus aux auditeurs. C'est très vulgaire, c'est très laid, mais pourquoi pas?
On écoute la bave du crapaud.
C'est amusant que le personnage principal de son film soit un chien, parce qu'il est temps de le faire piquer. C'est une catastrophe. À ce niveau-là, il faut... Ouais, injection létale, ouais.
Cette espèce de vieux con, là, qui espèce de donner des leçons de cinéma à tout le monde, alors qu'il maîtrise même pas son outil à la base. La 3D, ça se fait pas n'importe comment. Bonjour à tous, il est question de Adieu au langage.
Pour revenir sur le texte qu'on a lu sur la vulgarité, ou plutôt sur la démocratie, je n'amalgame pas du tout démocratie et vulgarité, hein, loin de là, mais c'était sur le premier texte qu'on a entendu de Tocqueville.
Rappelons, dans les pays libres où chacun est plus ou moins appelé à donner son opinion sur les affaires de l'État, où le souverain est abordable de toutes parts, etc., 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 il en résulte un abaissement bien plus général dans les âmes.
Voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas le confronter à ce que dit à d'autres moments Tocqueville sur la démocratie, où justement, par son voyage en Amérique, etc., par les observations qu'il a pu faire, il est pour une démocratie participative et pas quelque chose de passif. Il est pour que des gens du peuple donnent leurs avis dans des congrès, dans des formules en fait, participatives de
la
politique.
Vous avez tout à fait raison et on va revenir sur ce dispositif. Juste un mot quand même sur l'abruti dont on vient d'entendre la parole. On a le droit de le traiter d'abruti. Il appelle à la mort ou à l'euthanasie d'un homme. Donc on peut en retour décemment le traiter d'abruti. Il n'y a aucun inconvénient à cela, mais c'est précisément en cela qu'on est nous-mêmes contaminés par cet abaissement général dont il est le symptôme alors qu'il se vit comme une fine pointe lucide et critique dans une société consensuelle. C'est très intéressant d'entendre ce genre de licence, ce genre d'autorisation que le phénomène Internet, en l'occurrence, permet. Et ces individus à qui la détention de cet outil, de ce revolver que des milliards d'enfants désormais ont entre les mains, à qui la détention de cet outil donne une sorte d'impunité, donne le droit de dire, voilà, euthanasion Godard comme son chien. C'est un phénomène. Alors, on parle d'Internet, mais il n'y a pas qu'Internet. Il m'est arrivé d'enseigner à Sciences Po. Et alors, c'est très intéressant, Sciences Po. C'est une école formidable, pas de problème, etc. Mais il y a deux fois par an, à la fin de chaque semestre, une réunion, une sorte de conseil de classe, en fait, où les profs sont réunis et où les élèves également, pas les élèves, les représentants des élèves sont là. Et figurez-vous qu'à Sciences Po, on demande aux élèves d'évaluer les profs. Et en fait, on le demande un peu partout. Le résultat de ça, c'est que les élèves désormais, ou bien souvent, certains d'entre eux en tout cas, ont un comportement de consommateur. C'est-à-dire qu'on assiste à ce moment surréaliste où des individus discutent autour d'une table, des professeurs discutent autour d'une table, et quand la parole tombe sur le représentant des élèves, il est là et prenant un ton un peu sentencieux, un peu précieux, il dit « Oui, nous avons été plutôt déçus par le cours de M. X qui a méconnu telle dimension de la problématique. Nous avons également pensé que M. Y manquait d'éloquence pour évoquer tel truc. » Et on a juste envie de lui dire « Tais-toi, tais-toi ta gueule, écrase, tais-toi, t'es un enfant, apprends à écrire, apprends, remercie ceux qui se penchent sur ton cas pour essayer de t'apprendre des choses. » Mais non, c'est exactement ce que Tocqueville appelle l'égalitarisme. Et alors, l'égalitarisme dont Tocqueville fait la matrice de l'égoïsme et la matrice de l'arrogance. Il faut bien comprendre que l'égalité a disposé les individus à se représenter la jouissance de leurs biens, dit-il, c'est-à-dire de leurs opinions également, comme un bienfait. C'est mon droit, je pense ce que je veux, je dis ce que je veux, c'est mon droit. Et c'est un droit qui ne fait aucun cas des différences de position, c'est-à-dire que, en l'occurrence, l'une des pathologies de la démocratie, pour parler comme Régis Debray, si vous voulez, c'est la suppression des estrades. C'est le droit qu'un élève a, désormais, d'évaluer lui-même en retour son professeur. C'est cette espèce d'évaluation réciproque, ce modèle d'évaluation réciproque qui, tout simplement, par développement du phénomène démocratique, aboutit à l'involution du citoyen en consommateur, quel que soit l'objet de consommation, que ce soit un sandwich, que ce soit un hôtel ou que ce soit un cours de philosophie politique à Sciences Po.
Écoutons, si vous le voulez bien, Raphaël, un des textes que Tocqueville consacre à l'égalité.
L'égalité, qui rend les hommes indépendants les uns des autres, leur fait contracter l'habitude et le goût de ne suivre dans leurs actions particulières que leur volonté. Cette entière indépendance dont ils jouissent continuellement vis-à-vis de leurs égaux et dans l'usage de la vie privée les dispose à considérer d'un œil mécontent toute autorité et leur suggère bientôt l'idée et l'amour de la liberté politique. Il y a en effet une passion mâle et légitime pour l'égalité qui excite les hommes à vouloir être tous forts et estimés. Cette passion tend à élever les petits au rang des grands, mais il se rencontre aussi dans le cœur humain un goût dépravé pour l'égalité qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau et qui réduit les hommes à préférer l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. Ce n'est pas que les peuples dont l'état social est démocratique méprisent naturellement la liberté, ils ont au contraire un goût instinctif pour elle, mais la liberté n'est pas l'objet principal et continu de leur désir. Ce qu'ils aiment d'un amour éternel, c'est l'égalité. Il s'élance vers la liberté par impulsion rapide et par effort soudain, et s'il manque le but, il se résigne. Mais rien ne saurait les satisfaire sans l'égalité. Et il consentirait plutôt à périr qu'à la perdre.
C'est un texte absolument magnifique. Alors je précise pour nos auditeurs que ce texte est le résultat d'un montage entre deux passages de Tocqueville qu'on trouve dans La démocratie en Amérique sur la question de l'égalité. C'est un montage qu'on a fait ensemble, essayant de chercher pour nos auditeurs, dans l'intervalle dont on dispose, les moments les plus éloquents et les plus paradoxaux. Au fond, ce que Tocqueville redoute, c'est le dévoiement de la démocratie, c'est égalité, liberté, fraternité. Et non pas liberté, égalité, fraternité. C'est la prévalence de l'égalité sur la liberté. À cette prévalence de l'égalité sur la liberté correspond, en définitive, dans son esprit d'ailleurs, une prévalence de la liberté réelle sur la liberté formelle, c'est-à-dire du pain sur la bruyère, pour reprendre une différence chère à Albert Camus. Je m'explique ici. Écoutez Camus. Si l'homme a faim de pain et de bruyère, et s'il est vrai que le pain est le plus nécessaire, apprenons à préserver le souvenir de la bruyère. Au cœur le plus sombre de l'histoire, les hommes de Prométhée, sans cesser leur dur métier, garderont un regard sur la terre et sur l'herbe inlassable. Le héros enchaîné maintient dans la foudre et le tonnerre divin sa foi tranquille en l'homme. C'est ainsi qu'il est plus dur que son rocher et plus patient que son vautour. En d'autres termes, manger à sa faim, c'est bien, mais avoir la liberté de s'exprimer ou le droit de vote tout en mangeant à sa faim, c'est mieux. Et ce que décrit Tocqueville en faisant cette différence entre l'égalité et la liberté, c'est la différence que fera plus tard Raymond Aron lui-même en commentant Marx, entre la liberté d'être nourri et la liberté de s'exprimer. Et c'est une différence d'ailleurs qui s'applique, alors cette fois-ci non pas à la démocratie, mais à ces démocratures, ou à ces dictatures en vérité, qui sont des fausses démocraties populaires, notamment la Chine. On a longtemps dit, et longtemps cru, qu'aucune démocratie ne pouvait exister sans l'économie de marché. Bon. Et c'est vrai que l'histoire plaide en faveur de ce sentiment, disons que l'économie de marché est inévitable. Quand on est démocrate, toute tentative de construire une démocratie sans économie de marché a débouché sur des massacres de masse. Parce qu'on ne peut pas scinder la liberté. On ne peut pas permettre aux gens de s'exprimer sans leur permettre d'entreprendre, pour le dire simplement. C'est le diagnostic de Raymond Aron. En revanche, ce qu'on n'a pas vu, et ce qu'on découvre, notamment avec le phénomène chinois, c'est la possibilité d'une économie de marché sans démocratie. Or, c'est ça à quoi on assiste aujourd'hui, notamment en Chine, par exemple. Ce qui est très intéressant en Chine, c'est que ce que le modèle chinois propose, c'est-à-dire le modèle d'un parti unique, d'une presse qui n'est absolument pas libre, d'un Internet hyper surveillé, et en même temps d'un développement quasi anarchique de l'économie, en tout cas totalement dérégulé, ce que les Chinois sont en train d'inventer, l'hybride que les Chinois sont en train d'inventer, est un système où le peuple, faute de liberté, doit se satisfaire de la consommation. Remplace en définitive la liberté par la consommation. Et c'est ça le paradoxe, c'est que ce que Tocqueville dénonce comme l'individualisme égalitaire, c'est-à-dire la conquête de l'égalité qui débouche sur le sentiment que c'est mon droit et que j'ai moi aussi droit à ma part du gâteau. Ce sentiment-là, qui est bien naturel, qui est bien légitime. La victoire de ce sentiment-là sur le goût de la liberté, c'est-à-dire de l'engagement politique, et il faut revenir sur ce que vous disiez des associations, selon Tocqueville, la victoire de l'égalité sur le goût de l'engagement politique, c'est-à-dire sur le goût de la liberté, culmine dans un régime politique, la Chine aujourd'hui, qui remplace la liberté, parce qu'il n'y a aucune liberté en Chine, très peu, enfin c'est infime, c'est pas l'enjeu, par la consommation. Donc, d'un côté, on peut dire, écoutez, avoir le droit de vote, c'est bien, mais manger, c'est mieux. Et on peut entendre cet argument-là, évidemment. En tout cas, pour ne pas l'entendre, il faut manger à sa faim. Donc, on peut entendre cet argument-là. Mais en revanche, il faut être attentif au dévoiement de cet argument qui culmine dans la construction d'un régime où le développement anarchique de l'économie s'accommode d'une disparition de la liberté.
Enfin, pour la Chine, il suffit de voir des films d'opposants politiques comme A Touch of Sin de Jason Ke pour voir que tout le monde est loin de manger à sa faim et que ça concerne que très peu de personnes.
Et à cela s'ajoute le fait que Rafik Zenin me le suggère à l'oreille, il a tout à fait raison, que quand je parle de la Chine, il faut, à l'heure où nous enregistrons cette émission, exclure Hong Kong. dont le combat est exactement celui-là. C'est-à-dire s'il s'agit de défendre le droit à être libre. Non pas seulement libre d'entreprendre, mais également libre de s'exprimer. C'est fou que cette équation ne soit pas réversible. La liberté d'expression débouche sur la liberté d'entreprendre, mais la liberté d'entreprendre ne débouche pas fatalement sur la liberté d'expression. Et je crois qu'on peut trouver les linéaments de cette non-réversibilité dans les textes que Tocqueville consacre à la démocratie en Amérique, et notamment à la question de l'égalité. Écoutez Tocqueville encore.
Que demandez-vous de la société et de son gouvernement ? Il faut s'entendre. Voulez-vous donner à l'esprit humain une certaine hauteur, une façon généreuse d'envisager les choses de ce monde ? Voulez-vous inspirer aux hommes une sorte de mépris des biens matériels ? Désirez-vous faire naître ou entretenir des convictions profondes et préparer de grands dévouements ? S'agit-il pour vous de polir les mœurs, d'élever les manières, de faire briller les arts ? Voulez-vous de la poésie, du bruit, de la gloire ? Prétendez-vous organiser un peuple de manière à agir fortement sur tous les autres ? Le destinez-vous à tenter les grandes entreprises et, quel que soit le résultat de ces efforts, à laisser une trace immense dans l'histoire ? Si tel est, suivant vous, l'objet principal que doivent se proposer les hommes en société, ne prenez pas le gouvernement de la démocratie. Il ne vous conduirait pas sûrement au but. Mais s'il vous semble utile de détourner l'activité intellectuelle et morale de l'homme sur les nécessités de la vie matérielle et de l'employer à produire le bien-être, si la raison vous paraît plus profitable aux hommes que le génie, si votre objet n'est point de créer des vertus héroïques mais des habitudes paisibles, si vous aimez mieux voir des vices que des crimes et préférez trouver moins de grandes actions à la condition de rencontrer moins de forfaits, si au lieu d'agir dans le sein d'une société brillante, il vous suffit de vivre au milieu d'une société prospère, si enfin l'objet principal d'un gouvernement n'est point, suivant vous, de donner au corps entier de la nation le plus de force ou le plus de gloire possible, mais de procurer à chacun des individus qui le composent le plus de bien-être et de lui éviter le plus de misère, alors égalisez les conditions et constituez le gouvernement de la démocratie. Que s'il n'est plus temps de faire un choix et qu'une force supérieure à l'homme vous entraîne déjà, sans consulter vos désirs, vers l'un des deux gouvernements, cherchez du moins à en tirer tout le bien qu'il peut faire et, connaissant ses bons instincts ainsi que ses mauvais penchants, efforcez-vous de restreindre l'effet des seconds et de développer les premiers.
Comment penser tout de même avec ce texte, Raphaël, que Tocqueville soit démocrate, ou alors on revient à ce qu'on disait au début, à ce déchirement démocrate de tête, aristocrate de cœur.
Alors écoutez, il est profondément démocrate à tous égards, à tous égards. D'abord parce qu'il est critique de la démocratie. Alors, le paradoxe de la démocratie, qui est un régime dont l'inachèvement se donne pour règle, dont l'inachèvement est le viatique, dont l'inachèvement est la raison d'être. La démocratie, c'est un vélo. Si vous arrêtez de pédaler, elle tombe. La démocratie, c'est une liberté qui court constamment le risque d'être vaincue par sa propre victoire. Si elle s'endort, on bascule dans ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité ou bien le despotisme sournois. Donc, la démocratie est un régime qui ne vit que des critiques qu'on lui porte. Attaquer la démocratie, ça n'est pas la critiquer. Critiquer la démocratie, ça n'est pas l'attaquer. Attaquer la démocratie, c'est en récuser les fondements. Critiquer la démocratie, c'est en adopter les fondements et tenter, non pas d'amender les fondements, mais tenter d'en amender les pratiques ou de stimuler chez les individus une conscience politique à la grecque, car Tocqueville est de ce point de vue un philosophe grec, parce qu'il considère que la liberté, il n'y a pas de liberté sans liberté politique, c'est-à-dire sans engagement du citoyen dans la cité, il faut en revenir à ce que vous disiez de l'association. Je veux dire, critiquer la démocratie, ça n'est pas l'attaquer, c'est la féconder. Deuxièmement, vous avez dit aristocrate de cœur, démocrate de tête, c'est lui qui le dit. Ontologiquement, Tocqueville n'est pas démocrate. Mais d'abord, le père de Tocqueville lui-même avait voté l'abolition des privilèges. Il avait accueilli la Révolution française avec sympathie, à l'intérieur d'un loyalisme monarchique. Mais il n'aurait rien trouvé à redire à une monarchie constitutionnelle. C'est à la décapitation, à la décollation de Robespierre que le père de Tocqueville doit d'avoir vu sa tête échapper. Parce que sa tête devait tomber. C'est donc son père a survécu. Et Tocqueville, en fait, ne fait qu'accomplir le projet de son père, puisqu'en 1856, en mourant dans ses mémoires, son père a réclamé, a demandé, voulait comprendre les causes de la Révolution française que Tocqueville a fait quand il a écrit l'Ancien Régime et la Révolution. Donc c'est un héritier. C'est l'héritier d'un homme qui a assisté au crépuscule des valeurs qui se prétendaient immuables et dont il était lui-même l'un des représentants. Il est l'héritier de cela. Il porte cela en héritage. Donc, un, il est démocrate, parce que critiquer la démocratie, c'est être démocrate. Deux, il est démocrate de tête, c'est-à-dire qu'il ne l'est pas ontologiquement, mais il l'est parce que sa raison l'y conduit, parce que sa raison l'y conduit. Et trois, il l'est absolument dans la défense qu'il propose de la liberté politique, c'est-à-dire de la liberté d'association et de la liberté de la presse et du pluralisme politique. Il l'est absolument. Pour Tocqueville, le problème est très simple et on va le parcourir de plusieurs manières pour essayer de le donner à entendre. Le problème est très simple. Qu'est-ce que la démocratie ? La démocratie, c'est un régime qui garantit des droits que les individus n'avaient pas. Du coup, la démocratie suppose, pour être en bonne santé, que des individus ajoutent aux droits qui sont les leurs des devoirs, ou compensent les droits qu'ils reçoivent par des devoirs qu'ils se donnent. Or, les individus sont rarement à la hauteur du bien qu'on leur veut. Donc tout le problème, c'est comment obtenir de l'individu démocratique qu'il ait une mobilisation démocratique suffisante pour faire vivre le régime qui lui permet d'être en liberté. Et non pas profiter des droits et des bienfaits qu'il reçoit pour se replier sur lui-même et sur la stricte revendication de ses droits. Tocqueville serait particulièrement sensible à ce qu'il appellerait, lui, non pas des syndicats mais des corporatismes, attachés non pas à la défense de l'intérêt général, mais à la défense de leur simple corporation, défense opportunément grimée en défense de l'intérêt général. Ça n'est pas être antidémocrate que de considérer que certains syndicats défendent leurs intérêts ou les intérêts de leurs adhérents avant de défendre l'intérêt général. Tocqueville serait de ce côté-là, c'est un libéral. Néanmoins, il serait de ce côté-là, ça n'est pas être antidémocrate que de le dire, que de pointer cela. Ce que Tocqueville déplore, c'est la vacance du citoyen. Il dit, voilà, l'égalité développe l'individualisme des individus, contrairement à ce qu'on pense. On a voulu opposer les deux. C'est le contraire. L'égalité, la conquête des droits, développe en chacun le sentiment que c'est mon droit et que par conséquent, je peux me replier et je ne sortirai de chez moi que pour défendre mon droit et non pas les droits des autres. Développe ce tempérament, ce côté à la queue comme tout le monde, si vous voulez. Cette façon qu'ont les injonctions démocratiques de témoigner en général ou de n'être formulées en général que par ceux qui pâtissent des privilèges d'autrui. En gros, les privilèges d'autrui ne nous ennuient que quand autrui nous passe devant. Voilà. Patientez, monsieur, on est nombreux à être là avant vous, nombreux dont moi. Et je vous demande de patienter parce que c'est moi que vous lésez en passant devant tout le monde. Tocqueville excelle à repérer l'égoïsme sous la revendication égalitaire. Il excelle à repérer cela. Et il déplore ce méfait de la démocratie qui est, au fond, d'un côté, un citoyen replié sur lui-même, l'atomisation du citoyen, ce que Alain Renaud appelait l'atomisation du citoyen, l'ère de l'individu, le repli sur soi d'un individu qui craint de mourir en faisant un effort, qui ne veut pas sortir de chez lui, qui s'attache à la revendication de ses droits et qui, du coup, désertant l'espace public, laisse la place libre au tyran. Et donc Tocqueville est le premier à montrer qu'il y a un lien quasiment analytique, en tout cas structurel, ontologique presque, entre le repli sur soi de l'individu et la constitution du tyran. Or, toute personne qui dit que l'engagement politique, c'est la liberté, cette phrase en mai 68, « Si tu t'occupes pas de politique, c'est la politique qui s'occupera de toi », est une phrase qui pourrait être de Tocqueville. Il faut s'occuper de politique pour que la politique ne s'occupe pas de nous. La meilleure façon de résister à la tyrannie, c'est de sortir de chez soi. Il a une conception grecque de la liberté. La liberté pour les Grecs n'est pas séparable de l'activité dans la cité. Or, c'est exactement le sens du débat dans l'histoire du libéralisme. Vous avez deux tendances ici qui sont antagonistes. Tocqueville d'un côté, Benjamin Constant de l'autre. Benjamin Constant dit, écoutez, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Pour le dire très vite, hein, très simplement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tout ce qu'on peut demander à l'individu aujourd'hui, c'est d'être tranquille chez lui. Or, Tocqueville, comme Hannah Arendt, considère que le courage politique ou la liberté politique dépend de sa capacité à sacrifier sa vie à la liberté du monde, c'est-à-dire à s'engager. Donc défense des associations, défense de la presse, défense du pluralisme politique, c'est-à-dire défense de tout ce qui permet à l'individu d'investir l'espace laissé vacant entre les gouvernants et les gouvernés.
Vous avez parlé, Raphaël, d'une vacance du citoyen démocratique, d'une béance en quelque sorte. On peut s'apercevoir en lisant les textes de Tocqueville que ce qui rend vide cet espace, enfin, la raison pour laquelle cet espace est vide, c'est aussi parce que le sentiment, selon Tocqueville, de patriotisme ou de religion a déserté le citoyen démocratique.
Oui, vous avez raison, Paola. Pour le dire très vite, parce que vous allez voir à quel point c'est intéressant, à quel point il y a là trois points qui gagnent à être développés. D'abord, la religion catholique. Pour Tocqueville, au fond, il n'y en a qu'une, c'est celle-là. La religion catholique, dont l'efficacité démocratique est avérée. La religion catholique est celle qui rend aux hommes le goût de la transcendance, le goût de l'espoir, le goût de l'avenir. C'est celle qui leur propose un autre horizon que l'horizon clos d'un individu qui, replié sur ses droits par l'effet ou par le méfait de l'égalité, se contente au fond de la jouissance de ses biens personnels. Tocqueville ne fait ici que dire avant, 150 ans avant, avant ceux qui l'ont dit récemment, ne fait que dire que l'individu replié sur lui-même, matérialiste, cherche un sens à sa vie ailleurs que, doit chercher un sens à sa vie ailleurs qu'en lui-même. C'est-à-dire que Tocqueville donne à l'intuition bien naturelle selon laquelle un individu qui se donne lui-même pour seul horizon finit par ne pas trouver de sens à sa vie ou d'autre sens à sa vie que la reconduction d'un bien-être constamment ajourné ou qu'il faut constamment alimenter, le tonneau des Danaïdes du bien-être de chacun. Au fond, Tocqueville ne dit pas autre chose que une vie passée à viser son bien-être est une vie passée à ne pas viser loin, est une vie qui culmine en général dans le désespoir d'un individu qui dit « mais qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie à part colmater les brèches de ma petite existence perso ?» Donc, Tocqueville est celui qui permet de penser la nécessité pour un individu, et surtout un individu démocratique, d'être attaché à ce qui lui échappe, attaché à ce qui est plus vaste que lui, à ce qui va plus loin que lui, c'est-à-dire à se donner des perspectives qui excèdent les frontières, les bornes, les œillères de son individualité, elle-même confortée par la victoire de l'égalité. Donc la religion, de ce point de vue, joue un rôle très important. Là-dessus, deux points qu'on méconnaît chez Tocqueville qui sont très importants. Pour dire à quel point Tocqueville parle, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, le langage de notre époque. Si tant est que cette expression ait un sens. Écoutez Tocqueville sur la question de l'islam. « Mahomet, dit-il, Mahomet, a fait descendre du ciel et a placé dans le Coran non seulement des doctrines religieuses, mais des maximes politiques, des lois civiles et criminelles, des théories scientifiques. L'Évangile ne parle au contraire que des rapports généraux des hommes avec Dieu et entre eux. Hors de là, il n'enseigne rien et n'oblige à rien croire. Cela seul, entre mille autres raisons, suffit pour montrer que la première de ces deux religions, l'islam, ne saurait dominer longtemps dans des temps de lumière et de démocratie, tandis que la seconde, le catholicisme, est destinée à régner dans ces siècles comme dans tous les autres. Tocqueville, disant cela, ne fait que donner des lettres aristocratiques, si j'ose dire, à l'opinion aujourd'hui communément répandue, selon laquelle, vous savez, je ne suis pas islamophobe, mais bon. Vous savez, les gens qui disent « je ne suis pas islamophobe, mais enfin, je suis bien obligé d'admettre que le Coran, c'est la charia, ce qu'il faut, et que la charia, c'est un code civil, alors que l'Évangile, qu'est-ce que vous voulez ? Ben, l'Évangile ne réglemente pas nos actes, ne va pas si loin dans la réglementation de nos actes. Donc, le christianisme ou le catholicisme est plus compatible avec un univers démocratique et libéral que l'islam qui prétend réguler nos comportements. » Ce discours-là, qui est un discours sommaire, qui est un discours étroit. Eh bien, ce discours-là, il a été formulé pour la première fois par Tocqueville, au début, dans la première moitié du XIXe siècle. Et l'autre point qui, à mon avis, justifie une émission entière sur le rapport de Tocqueville à la religion, c'est une lettre, Paola, que je suis content de donner à lire, parce que c'est une lettre que les descendants de Tocqueville ont voulu faire disparaître. C'est une lettre que Tocqueville adresse à Madame Svetchin, ne me demandez pas qui est Madame Svetchin, qui date du 26 février 1857, dans lequel Tocqueville dit ceci, et je voudrais que Georges Claes prêtât sa belle voix à ce propos, parce que c'est une lettre qui mérite d'autres lecteurs que moi-même. Écoutez-le.
Je ne sais si je vous ai jamais raconté un incident de ma jeunesse qui a laissé dans toute ma vie une profonde trace. Comment, renfermé dans une sorte de solitude durant les années qui suivent immédiatement l'enfance, livré à une curiosité insatiable qui ne trouvait que les livres d'une grande bibliothèque pour se satisfaire, j'ai entassé pêle-mêle dans mon esprit toutes sortes de notions et d'idées qui, d'ordinaire, appartiennent plutôt à un autre âge. Ma vie s'était écoulée jusque-là dans un intérieur plein de foi qui n'avait pas même laissé pénétrer le doute dans mon âme. Alors, le doute y entra, ou plutôt s'y précipita avec une violence inouïe. Non pas seulement le doute de ceci ou de cela, mais le doute universel. J'éprouvais tout à coup la sensation dont parlent ceux qui ont assisté à un tremblement de terre, lorsque le sol s'agite sous leurs pieds, les murs autour d'eux, les plafonds sur leurs têtes, les meubles dans leurs mains, la nature tout entière devant leurs yeux. Je fus saisi de la mélancolie la plus noire, pris d'un extrême dégoût de la vie sans la connaître, et comme accablé de troubles et de terreurs à la vue du chemin qui me restait à faire dans le monde. Des passions violentes me tirèrent de cet état de désespoir. Elles me détournèrent de la vue de ces ruines intellectuelles pour m'entraîner vers les objets sensibles. Mais de temps à autre, ces impressions de ma première jeunesse, j'avais 16 ans alors, reprennent possession de moi. Je revois alors le monde intellectuel qui tourne et je reste perdu et éperdu dans ce mouvement universel qui renverse ou ébranle toutes les vérités sur lesquelles j'ai bâti mes croyances et mes actions. Voilà une triste et effrayante maladie. Madame, je ne sais si je l'ai jamais décrite à personne avec autant de force et malheureusement de vérité qu'à vous. Heureux ceux qui ne l'ont jamais connue ou qui ne la connaissent plus.
Il est permis de penser en écoutant cette lettre que je découvre en là.
Vous ne la connaissiez pas?
Non, pas du tout.
Je vous la réservais pour, pour le moment. Ouais.
À Sartre, dans les mots. Pourquoi
c'est-à-dire
pas à l'expérience que fait le jeune Sartre.
Quand il cesse de croire en Dieu.
Quand il cesse de croire en Dieu.
Il règle son compte à Dieu à l'âge de 10 ans.
Et qu'il est tout jeune, voilà, il a 10 ans. Bon, Tocqueville parle d'une expérience faite à 16 ans.
À ceci près, Madame Paola, ou Mademoiselle, que Sartre accueille la mort de Dieu ou la disparition de Dieu comme une excellente nouvelle. Or, Tocqueville vit ça comme une déchirure. Tocqueville ne croit pas en Dieu. Que les choses soient dites à la radio, puisqu'on a voulu le taire pendant bien longtemps. Tocqueville ne croyait pas en Dieu. Tocqueville a cessé de croire en Dieu à l'âge de 16 ans. L'homme qui a présenté la religion catholique comme, non pas le carburant, mais le Graal, non pas le Graal, l'élan de la démocratie. Ce qui donnait son élan à la démocratie. L'homme qui exige la transcendance comme ce qui donne l'élan à la démocratie ne croyait plus en Dieu depuis l'âge de 16 ans. Il était saisi d'un doute universel. C'est en cela d'ailleurs que Tocqueville est absolument, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails de cette opposition, de cet antagonisme. S'il y a un philosophe dont Tocqueville, à qui Tocqueville n'emprunte rien, c'est Descartes. Tocqueville est absolument, il n'est même pas anti-cartésien, il est non-cartésien à tous égards. Sa conception du sujet, sa conception de la liberté, sa conception de l'héritage, le fait même pour lui qu'un héritage n'est recevable que si on accepte d'en hériter, justement. On ne se libère des héritages que si on en hérite, alors que Descartes est celui qui a accompli le geste exactement inverse en voulant récuser tout ce qui le précède. Et récusant tout ce qui le précède, il a reconduit un système qui était celui de l'Église, c'est-à-dire il a remplacé la centralité de l'homme au sein de la création par la centralité de l'homme au sein de la connaissance. C'est la même chose. Descartes, d'ailleurs c'est pour ça que Descartes, on peut être parfaitement catholique et excellent cartésien, contrairement à ce que l'idée reçue d'un cartésianisme rationaliste, voltairien voudrait penser, on peut être catholique et cartésien, on peut difficilement être tocquevillien et considérer qu'on tourne le dos à son héritage. Tocqueville n'est pas cartésien, il n'a rien de cartésien, et cette lettre, à mon avis, en fournit l'explication, en délivre l'explication. Bref, je clôt cette parenthèse religieuse pour vous dire à quel point c'est un sujet compliqué, à quel point chez Tocqueville il y a, à quel point la représentation politique, des vertus politiques du phénomène religieux s'accommode fort bien d'une défiance totale, intime, en ce qui concerne sa propre croyance. Schopenhauer lui-même était le pire ennemi de Dieu et il constatait que le fait religieux ou le désir métaphysique était absolument indéracinable du cœur humain et que par conséquent il en fallait aux hommes, même si Schopenhauer était beaucoup moins démocrate que Tocqueville.
Alors, autre ambiguïté dans la pensée de Tocqueville, c'est celle de la liberté de la presse, et j'y reviens puisque vous m'en voudriez en plus de si on passait à côté. Alors, qu'en est-il de la question de la liberté de la presse dans la pensée de Tocqueville?
Alors, il en parle beaucoup. C'est un penseur de la liberté de la presse, contrairement à Schopenhauer aussi, d'ailleurs. Il en parle énormément. Et je crois, et je parle ici sous le contrôle de ceux qui connaissent Tocqueville mieux que nous, je crois que tout ce qu'il dit de la liberté de la presse tient en 6 lignes, une citation qui se trouve dans La démocratie en Amérique, et que les Tocquevilliens connaissent, et que peut-être la majorité de nos auditeurs ne connaissent pas, et que je suis heureux de leur offrir, littéralement. Voici la citation. « En matière de presse, dit donc Tocqueville, il n'y a pas de milieu entre la servitude et la licence. Pour recueillir les biens inestimables qu'assure la liberté de la presse, il faut savoir se soumettre aux maux inévitables qu'elle fait naître. Vouloir obtenir les uns en échappant aux autres, c'est se livrer à l'une de ces illusions dont se bercent d'ordinaire les nations malades, alors que, fatiguées de lutte et épuisées d'efforts, elles cherchent les moyens de faire coexister à la fois sur le même sol des opinions ennemies et des principes contraires. Juste un point. On a commencé cette émission, Paola, en montrant que Tocqueville pouvait en un sens être le diagnosticien d'une médiocrité acquise par la prise de parole. Que ce soit le micro-trottoir, que ce soit Internet, c'est-à-dire qu'il est celui qui permet de penser à quel point les individus sont crétins quand ils pensent penser tout seuls, ou quand ils pensent penser par eux-mêmes, c'est-à-dire tout seuls, c'est-à-dire comme tout le monde. Tocqueville est celui qui permet idéalement de penser vraiment le conformisme de l'anticonformiste, ou le conformisme de l'iconoclasme qui se présente comme tel et qui ignore qu'il est porteur à son insu des opinions de la foule. Donc Tocqueville est celui qui permet de penser ça. Donc on pourrait penser que dans le droit fil de cela, il va permettre de repérer tous les méfaits de la liberté de la presse, c'est-à-dire tous ces moments où on trafique les paroles, où on dispose des gens dont on parle, où on salit les uns, les rumeurs, le dévoiement de l'information en information non filtrée, ce qu'on appelle Wikileaks, vécu comme une conquête de la liberté, alors que, un, ça ne nous apprend rien, deux, ça nous soumet à d'autres tutelles que celles qu'on avait avant. Bref, on pourrait considérer que Tocqueville va aller dans le sens d'une restriction de la liberté de la presse. Eh bien, pas du tout. Et c'est là qu'il est merveilleux, et c'est là qu'il permet de montrer justement une chose fondamentale, c'est que ça n'est pas être hostile à la liberté de la presse que d'en critiquer le dévoiement. Ça n'est pas être un censeur, par exemple, que de s'indigner de certaines paroles qui, si on les laisse, sont elles-mêmes, produisent elles-mêmes des effets de censure, par exemple. Alors, sur la liberté de la presse, Tocqueville est formidable parce qu'il dit, je redis cette phrase, « Pour recueillir les biens inestimables qu'assure la liberté de la presse, il faut savoir se soumettre aux maux inévitables qu'elle fait naître. » Qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien voilà, dans la vie, c'est comme ça. La liberté de la presse, c'est aussi le Watergate. Et sur cette question de la liberté de la presse, autre point intéressant, il parle de ces sociétés fatiguées de lutte et épuisées d'efforts, qui cherchent les moyens de faire coexister à la fois sur le même sol des opinions ennemies et des principes contraires. Souvenez-vous, Paola, de ce qui s'est passé au moment de la publication des caricatures du prophète. Bon, à deux reprises. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Eh bien, il s'est passé que de bons esprits ont cru faire preuve de sagesse et de pondération en disant que ce n'était pas le moment de publier les caricatures du prophète. Que c'était pas le moment, comme il disait, de jeter de l'huile sur le feu. Or, c'est, dit Tocqueville, et en général le discours était « La liberté de la presse est un droit fondamental en démocratie, mais il faut respecter les autres. » Bien. Or, Tocqueville serait le premier à repérer ici la coexistence ou la cohabitation de principes contraires. Je m'explique. En démocratie, on a plein de principes. La présomption d'innocence, le droit d'informer, la liberté de la presse, le respect de l'autre. On a plein de principes. Et il est une fois pour toutes illusoire de faire cohabiter tous ces principes. Quand on brandit le droit de savoir comme un principe démocratique, on sacrifie la présomption d'innocence. Gagnons du temps. C'est ce qu'on fait partout. On sacrifie la présomption d'innocence ou le secret de l'instruction, autre principe démocratique. Quand on brandit le droit de savoir, quand on brandit la protection de la vie privée, on sacrifie, en un sens, le droit d'informer. Il faut arrêter de croire que tous les principes démocratiques peuvent vivre ou exister au même degré ensemble. Non, le choix, l'élection d'un principe plutôt que d'un autre détermine la façon que nous avons, vous, moi ou d'autres, d'être démocrates. Soit vous privilégiez le droit de savoir, soit vous privilégiez, par exemple, le respect de la vie privée. Soit vous privilégiez la présomption d'innocence, soit vous privilégiez la nécessité d'informer ou le fait de montrer ce que d'autres nous cachent. Quel que soit le principe auquel vous souscrivez, le choix que vous faites se fait aux dépens d'autres principes. Et c'est là que Tocqueville intervient. Parce que Tocqueville dit « Une nation qui veut faire coexister les principes contradictoires est une nation exténuée. » Or, au moment des caricatures, vous aviez un discours qui, mi figue, mi raisin, qui disait « Liberté de la presse, oui, mais attention au blasphème. » Qui était un discours totalement lénifiant. Et qui était un discours qui renseignait sur l'épuisement de celui qui le tient, plutôt que sur sa pondération, sa sagesse acquise. Tocqueville encore. Tocqueville se moque de ceux qui attendent comme le Messie l'époque où, dit-il, la société reprenant une assiette tranquille, la presse, à son tour, deviendra calme. Or, Ceux qui dénoncent les caricatures du prophète parce qu'à leurs yeux les désordres publics sont plus graves que le bâillonnage de la presse, jouent une fois de plus, aux yeux de Tocqueville, au fond, aux yeux d'un Tocquevillien, la tranquillité, l'égalité, dirait-il, contre la liberté, au risque de ménager le retour d'un despote qui garantira la première aux dépens de la seconde. Ce que je veux dire ici, c'est que les intégristes sont la honte de l'islam, les indécis sont la honte de la République, mais les premiers ne sont dangereux que quand les seconds sont au pouvoir. Et c'est une des leçons de Tocqueville, et une leçon qui est contenue dans le fait que, pour recueillir, je redis cette phrase, un, pour recueillir les biens inestimables qu'assure la liberté de la presse, il faut savoir se soumettre aux maux inévitables qu'elle fait naître, et deux, les nations malades, fatiguées de lutte et épuisées d'efforts, cherchent les moyens de faire coexister à la fois sur le même sol des opinions ennemies et des principes contraires.
J'aimerais, Raphaël, qu'on en vienne, et peut-être qu'on finisse sur ça d'ailleurs, sur ce que Tocqueville appelle le despotisme sournois, parce qu'on a parlé d'un Tocqueville contemporain, d'un Tocqueville presque visionnaire, et là, on est carrément presque dans un moment de dystopie. Alors j'aimerais qu'on entende ce texte qui est très très beau, et qui est dans la Démocratie en Amérique, deuxième partie, c'est ça ?
Oui, c'est à la fin de la Démocratie en Amérique, dans la famille des textes prémonitoires, des plus beaux textes de philosophie politique. Je crois que celui-ci a la palme d'or. Laissons nos auditeurs en juger.
Lorsque je songe aux petites passions des hommes de nos jours, à la mollesse de leurs mœurs, à l'étendue de leur lumière, à la pureté de leur religion, à la douceur de leur morale, à leurs habitudes laborieuses et rangées, à la retenue qu'ils conservent presque tous dans le vice comme dans la vertu, je ne crains pas qu'ils rencontrent dans leur chef des tyrans, mais plutôt des tuteurs. Je pense donc que l'espèce d'oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qu'il a précédé dans le monde. Nos contemporains ne sauraient en trouver l'image dans leurs souvenirs. Je cherche en vain moi-même une expression qui reproduise exactement l'idée que je m'en forme et la renferme. Les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle. Il faut donc tâcher de la définir, puisque je ne peux la nommer. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses citoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul. Et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leur héritage, que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre. C'est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses. Elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait. Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière. Il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige. Il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse. Il ne détruit point, il empêche de naître. Il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il est bête. Et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. J'ai toujours cru que cette sorte de servitude réglée, douce et paisible dont je viens de faire le tableau pourrait se combiner mieux qu'on l'imagine avec quelques-unes des formes extérieures de la liberté, et qu'il ne lui serait pas impossible de s'établir à l'ombre même de la souveraineté du peuple.
On est bien d'accord qu'on n'a absolument pas le temps, Paola, de dire le millième hein, de ce qui se contient dans ce texte, de ce qui se trouve
dans ce texte. Qu'est-ce que c'est dense ?
C'est dense, mais qu'est-ce que c'est beau ? Qu'est-ce que c'est beau ? Et d'ailleurs, il y a tellement de choses à en dire qu'on ne va pas en dire grand-chose. Vraiment, j'invite nos auditeurs à l'écouter de nouveau. Réécoutez ce texte. Entendez le portrait que Tocqueville fait de vous. Entendez cela. Et demandez-vous par quelle épiphanie un aristocrate de la première moitié du XIXe siècle a su vous décrire avec autant de pertinence et d'acuité. Si ce n'est pas là la preuve que la nature humaine n'évolue guère, ou qu'en tout cas depuis qu'elle vit en démocratie, elle se ressemble constamment, si ce n'est pas là un signe distinctif justement de la constance du caractère humain, alors que vous faut-il ? Mais ce texte-là, on peut l'aborder d'un point de vue philologique, expliquer des choses à partir de la pensée de Tocqueville, mais encore une fois, faites droit au bonheur de sa lecture. Je veux dire, il pourvoit leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, etc., etc. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? C'est quand même plus éloquent qu'une dénonciation de l'assistanat, vous voyez ?
Est-ce que, parce que certains ont voulu voir dans ce texte une image de ce que serait, par exemple, un régime totalitaire. Est-ce que ce moment que vous avez lu, peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre, n'est-il pas le seul moment totalitaire, le seul moment de la possibilité d'un totalitarisme, tout le texte, parce que le reste ressemble plutôt à ce que serait qu'une société de consommation réglée par quelque chose d'un gouvernement, prévoyant et doux.
C'est une nouvelle forme du despotisme. C'est un despotisme démocratique. Ce que Tocqueville appelle ailleurs la tyrannie de la majorité. Nous avons deux émissions de plus à faire sur Tocqueville, une sur la religion et une sur la tyrannie de la majorité.
Un cycle, quoi.
La tyrannie de la majorité, c'est fondamental parce que, et en très peu de mots, c'est le paradoxe selon lequel la majorité veut quelque chose et pourtant, en l'appliquant, elle l'impose. Est-ce que de ce point de vue, la majorité n'est pas tyrannique ? Comment une majorité, alors qu'elle est majoritaire, peut-elle être tyrannique ? Tocqueville est extrêmement sensible de ce point de vue, c'est le meilleur penseur de ça, à la question de l'opinion publique, c'est-à-dire à ce qu'il est convenable de penser. C'est la forme prise par la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire que la tyrannie de la majorité, ce n'est pas la tyrannie du vote. Ce n'est pas le fait qu'une majorité ait voté à droite plutôt qu'à gauche ou à gauche plutôt qu'à droite. Il n'y a rien de tyrannique là-dedans. Non, la tyrannie intervient, par exemple, puisque c'est l'exemple qu'il prend, quand, en Pennsylvanie, les Noirs disposant du droit de vote ne vont pas voter parce que, évidemment, l'opinion commune n'imagine pas un Noir se rendre à l'isoloir. Voyez ? C'est ça, la tyrannie de la majorité. C'est l'implicite démocratique, et c'est cette façon qu'a l'opinion publique de régenter nos lois et, in fine, de produire des lois, ce qui pose toute une série de problèmes, pour le coup, liberticides, voire anti-égalitaires. La tyrannie de la majorité, c'est ça, c'est-à-dire c'est ce Moloch qui n'est pas la presse, qui est la partie grégaire de soi-même, la partie de soi-même qui rejoint le troupeau, à l'instant où l'on croit s'exprimer tout seul, et qui compose un outil ou un tyran plus puissant que toute forme de tyrannie clairement identifiable sous la forme de Mussolini ou d'un culte de la personnalité.
Mais est-ce que ce despotisme sournois et cette tyrannie de la majorité dont il est question ne repose pas sur ce dont on avait eu l'occasion de parler quand on avait fait une émission sur Spinoza, mais sur ce sentiment illusoire du libre-arbitre ?
Si, tout à fait. Et c'est en cela qu'il n'est pas cartésien. Si, tout à fait. C'est-à-dire que Spinoza permet de penser, Spinoza que Tocqueville a peut-être lu, j'en suis pas sûr, mais Spinoza permet de penser que non seulement le libre-arbitre relève de l'ignorance des causes réelles qui nous font agir, mais que surtout, enfin, qu'il y a plus de liberté dans le fait de ne pas se savoir libre que dans le fait de croire qu'on l'est. Mais surtout, croire qu'on a un libre-arbitre, c'est être à son insu le pantin de ses passions, ou des passions qu'un habile démagogue saura manipuler. À la façon dont le souverainisme peut être la servitude renouvelée à l'échelle d'un État. Mais donc Spinoza permet de penser ça. Et effectivement, Tocqueville reprend cette idée-là. C'est-à-dire, il reprend l'idée que derrière la revendication de l'individu qui dit « c'est mon droit » ou bien « je pense ce que je veux » ou bien « je dis ce que je veux », l'individu qui affirme de façon arrogante les droits qui sont les siens et qui, affirmant ses droits, ne se voit pas lui-même intégrer le grand corps social qui pense à l'unisson de ses propres lieux communs, bref, ne voit pas qu'à l'instant où il revendique son droit de parler comme lui-même, en fait, il construit, il élabore un lieu commun, ce qu'il faut entendre de toutes les manières, Ce paradoxe-là, Tocqueville est extrêmement sensible à cela, puisqu'il est sensible à la façon dont le citoyen s'est perdu lui-même. C'est-à-dire, il est sensible à la façon dont l'homme démocratique court le risque de s'endormir sur sa victoire, court le risque de s'endormir sur la revendication de ses droits et de ne plus jamais les défendre. Ce qui donne un despotisme sournois qui prend toute une infinité de formes. Mais la première d'entre elles, c'est la question du convenable. Il y a ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, les lois non écrites. Les lois non écrites. Et en cela, Tocqueville, on peut faire une lecture tout à fait subversive de Tocqueville. Il y a des tas de lois non écrites qui prescrivent ou interdisent des tas de comportements qu'il semblerait scandaleux à de bons esprits, pourtant ouvertement iconoclastes, de contourner. Tocqueville est le premier qui permet de penser cela. Mais la matrice de tout cela, c'est le lien qu'il établit entre l'égalité et l'égoïsme. C'est là qu'il est très fort. C'est le lien qu'il établit entre ces valeurs, si j'ose dire, en apparence antagonistes, que sont l'égalité et l'égoïsme. Quand on dénonce l'égoïsme dans la société contemporaine, on le fait souvent au nom de l'égalité. On dit « oui, nous vivons une société trop individualiste, qui a trahi les idéaux égalitaires, etc. » Tocqueville est celui qui montre que la conquête de l'égalité est également un développement de l'égoïsme. Culmine dans un développement de l'égoïsme, c'est-à-dire d'un individu qui se replie sur lui-même en réalité et qui est bien caché derrière l'égalité et qui ne défend l'égalité ou qui n'habille de valeurs communes que la défense de ses intérêts particuliers. Tocqueville est celui qui permet de penser ça. C'est pour ça qu'il a mauvaise réputation. Il a mauvaise réputation parce qu'il vient de Montesquieu, parce qu'il est l'héritier de Montesquieu qui, malgré tout, tenait l'inégalité pour le ressort et la garantie de la liberté. Donc il est l'héritier de Montesquieu et de ce point de vue, il déplore que la Révolution française ait élu l'unanimisme rousseauiste plutôt que la pondération chère à Montesquieu des pouvoirs. Mais le texte est si fécond que s'en tenir là, c'est frustrant. Il faudra qu'on revienne sur ce texte, tout simplement. Il faudra qu'on revienne sur ce texte, d'abord pour le faire entendre une deuxième fois, et également pour, je crois, à l'occasion de ce texte, revenir sur tout ce qui distingue Tocqueville de Rousseau. Pour le dire en un mot, et comme on arrive au terme de l'émission, je suis obligé de conclure là-dessus, Rousseau, dont on fait le penseur de la démocratie, est également celui qui, dans le contrat social, écrit qu'un gouvernement démocratique est impossible. Il faudrait un peuple de Dieu pour se gouverner démocratiquement. Un tel gouvernement ne convient pas à des hommes. La phrase est de Rousseau, à la lettre près. Or, Tocqueville est celui qui, avec l'exemple américain, avec son travail de sociologue dans l'Amérique naissante du XIXe siècle, dans cet État jeune, Tocqueville est celui qui va chercher en Amérique la réalisation d'une démocratie que Rousseau présentait comme impossible. Parce que si, pour Rousseau, la démocratie est impossible, parce que l'homme, on ne peut pas obtenir du citoyen qu'il se voue continuellement à la chose publique. Pour Tocqueville, même si, et il est rousseauiste en cela, la participation du citoyen est indispensable à la liberté politique, on peut obtenir du citoyen qu'il s'occupe de la chose publique en décentralisant. Et Tocqueville est aussi le penseur de la décentralisation. Bref, Tocqueville montre que la démocratie est possible malgré les citoyens dérisoires et mesquins qui la composent, alors que Rousseau, faisant reposer la démocratie sur la vertu des citoyens, s'abîmait dans la déploration devant le monde comme il va. We live in a political world. Love don't have any place. We're living in times where men commit crimes and crime don't have a face. Merci Paola, merci à tous, Rafik Zénine, Jean-Michel Bernot, Alice Ramon et vive Bob Dylan. C'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui. On reviendra donc sur la pensée de Tocqueville à deux reprises au moins cette année. C'est promis pour y parler de religion et pour y revenir sur le paradoxe étonnant et tellement fécond de tyrannie de la majorité. On y reviendra, mais pas tout de suite, car c'est avec Le rivage des Sirtes de Julien Gracq que nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Un chef-d'œuvre de silence et de vibration contenu dans l'immobilité apparente d'une ville endormie. Un régal, c'est promis, vous verrez, vous entendrez. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur Internet à la page du Gai Savoir où vous attendent téléchargements, bibliographies, écoutes en ligne, ainsi que sur Facebook où vous attendent les mêmes choses. Et je profite de cette annonce d'ailleurs pour vous bénir et vous remercier, chers auditeurs, qui êtes chaque semaine plus nombreux à télécharger cette émission. Votre assiduité, vos critiques, vos remarques nous donnent chaque semaine le sentiment de ne pas tout à fait bricoler dans l'éphémère. Et c'est peu dire à ce titre que ces émissions sont les vôtres. Merci donc, nous continuons, vous ne changez rien. Si si dans l'intervalle, d'ici dimanche prochain, la philosophie vous manque, ben ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours lire Philosophie Magazine, notre partenaire particulier qui vous propose ce mois-ci de reprendre votre destin en main. Ou bien, écoutez les nouveaux chemins de la connaissance qui, tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, vous parleront de photographie, une semaine animée pour une fois, tiens, par Géraldine Mosna-Savoie. Allez, c'est fini, à dimanche prochain, il est 17h sur France Culture, dans un instant après le monde politique, l'atelier du pouvoir, Thomas Wieder, Vincent Martini.